Vous savez, avec le temps qu'on développe des relations avec les gens, on apprend à connaître nos proches, hein? On apprend à connaître comment est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, comment est-ce qu'ils pensent. Et des fois, on a des proches qui sont moins proches, hein? C'est peut-être plus des connaissances. Et on a des fois une perception aussi de ces gens-là, de nos proches, du prochain qu'on pourrait appeler. Encore là, de ce qu'ils pensent, de comment est-ce qu'ils agissent, de ce qu'ils sont. Et puis, on pourrait avoir des pensées envers ces gens-là où c'est une personne consacrée. On pourrait dire c'est une personne engagée. Ça, c'est une personne qui aime le Seigneur. Et on peut être positivement encouragé par notre prochain. Mais vous savez, il y a un moment donné où il y a un danger qu'on bascule du côté obscur, qui pourrait être qualifié par le mépris, la calomnie, puis le jugement. Et quand on commence à aller sur ce côté-là, ce qu'on est en train de faire, en gros, c'est qu'on est en train de placer des étiquettes. On est en train d'évaluer la vie de nos proches, la vie de nos gens qui sont près de nous, et puis on place des étiquettes sur eux. J'ai apporté des étiquettes. J'ai écrit toutes sortes de choses, OK? Et puis, ce que je vais faire n'est pas intentionnellement dirigé. C'est bien, OK? L'astérix est noté, là, vous avez tout compris. On pourrait dire, toi, Gabriel, on ne dit pas ça toujours fort, mais des fois, on peut penser dans notre propre cœur, ou on peut penser des fois un petit peu tout haut avec quelqu'un près de nous, puis juger Gabriel. Gabriel, lui, c'est un gars qui se fait vivre. Accroche ça sur un de tes boutons, s'il te plaît, Gabriel. Hein? On pourrait se dire avec une autre personne, tu te prends pas mal, là, Gabriel, là, hein? OK? Il n'y a rien d'intentionnellement dirigé que je disais. Hein? Et là, on prend cette étiquette-là, puis là, avec une autre personne, on est en train d'étiqueter notre frère, puis dire, ah, lui, ce frère-là, regarde-le comment est-ce qu'il est, puis regarde ce qu'il fait. Puis là, on place une étiquette sur lui. Je vais choisir mes gens parce que je ne veux pas savoir trop. Serge, peux-tu choisir? Serge! Serge, lui, là, c'est un gars prétentieux. Hein? Il arrive ici à l'église avec sa grosse Bible. Hein? Sa chemise et puis même pas de cravate. Oh, moi non plus. Hein? Mais ça, c'est un de tes boutons, s'il te plaît, Serge. Et là, on a Michael. Michael Labbé. Lui, Michael, et là, on pense entre nous, puis là, des fois, on pourrait être avec une couple de personnes, puis dire, Michael, lui, c'est un gars, c'est un gars négligent. Hein? Regardez comment est-ce qu'il se néglige, il se fait pas la barbe, néglige ses choses. Et là, on se met à étiqueter du monde. Et là, il y en a qui s'en vont, hein. David! David Marquis! David Marquis, lui, c'est un voleur. Hein, il peut bien se sauver, on va le donner à sa femme, es-tu là, non? Bon, OK, on va y garder pour tantôt. Alors, j'en ai plein comme ça. On pourrait commencer à dire, on va étiqueter le monde autour de nous. Mais négativement, et dire, Gabriel, c'est un homme comme ça. Serge, c'est un homme comme ça. Michael, il agit comme ça. Et en faisant ça, là, on en rit. Mais il y a une forme de malaise en même temps, hein? Parce qu'on est en train de montrer qu'on étiquette les gens. Vous êtes mal à l'aise, vous êtes assis à vos places, j'espère qu'il ne me choisira pas. Et imaginons que il y ait plus que moi. Imaginons que Dominique embarque avec moi. Imaginons que Sonia embarque avec moi. Et que là, on est 4, 5, 6, 7, et qu'on se met à donner des étiquettes aux gens près de nous. Comment est-ce qu'on se sent? Comment est-ce qu'on est face à cet étiquetage-là, que l'on peut être victime, mais qu'on peut être même aussi l'initiateur de cela. Imaginons que vous arrivez dans l'assemblée et que rapidement vous réalisez qu'on vient de vous poser une étiquette. Comment allez-vous sentir votre place, votre accueil dans l'assemblée si vous avez ce sentiment-là? Imaginons des gens qui pourraient venir parmi nous, qui le savent très bien, qui ont un bagage lourd sur leur vie, qui ont des difficultés avec des luttes qu'ils ont, et que là, tout de suite en arrivant, on leur met une étiquette. Ces étiquettes-là, c'est des jugements qu'on pose. C'est des calomnies que l'on fait. Est-ce que ça, c'était l'attitude de Jésus? J'aimerais ça, Pierrette, que tu regardes ce que tu vois derrière l'étiquette de ton mari. Qu'est-ce que tu vois? Il n'y a rien? Jocelyne, tu voudrais-tu regarder derrière l'étiquette de ton mari pour me dire ce que tu vois? Il n'y a rien derrière l'étiquette? Michael, tu n'as personne qui peut valider ça à côté de toi. Des fois, on est trop proche pour voir qu'il y a quelque chose. Gabriel, je ne veux pas trop t'exposer, mais tu l'étais déjà. Lève-toi, s'il te plaît. Tourne-toi vers l'Assemblée. Qu'est-ce que vous voyez derrière l'étiquette? Derrière l'étiquette, il y a Gabriel. Des fois, on est trop proche d'une personne pour réaliser qu'il y a quelqu'un. Hein? Derrière l'étiquette, il y a un homme que Dieu aime. Il y a une personne derrière ces étiquettes-là qu'on a tendance à poser sur les gens. Merci, Gabriel. Oui, on t'aime, Gabriel. Vous pourriez faire la bise tantôt pour le rassurer. Derrière les étiquettes que l'on peut poser, Jésus, il voit une personne. Jésus, il voit quelqu'un qu'il aime. Comment est-ce que nous, on voit? On dit, on chantait tantôt, « Te ressembler Jésus ». David, tu viendras ramasser ton étiquette, elle est juste ici en avant, s'il te plaît. Hein? « Te ressembler Jésus », c'est mon espoir suprême. Penser, agir, aimer, puis on pourrait même ajouter « voir comme toi ». Ce que Dieu veut qu'on fasse, c'est qu'on regarde derrière l'étiquette. Qu'on regarde ce qu'il y a derrière l'étiquette. Parce que derrière l'étiquette, il y a une personne. Pourquoi est-ce que c'est si important pour Dieu qu'on ne juge pas notre prochain? Il est important de comprendre ce que la Bible veut dire quand elle nous dit que nous ne devons pas juger les autres. Dieu va nous montrer ce matin, à travers Jacques, le chapitre 4, les versets 11 et 12, trois raisons pour ne pas juger. Je vous invite à tourner avec moi dans Jacques 4. On va regarder deux versets. Regarde derrière l'étiquette. Des fois, on a l'impression que ce que l'on voit d'une personne se limite à une étiquette. Mais en regardant derrière l'étiquette, c'est regarder comme Jésus regarde aussi. J'aimerais qu'on prie, qu'on prenne le temps de que Dieu vienne toucher nos cœurs à travers sa parole et qu'il transforme aussi nos pensées, nos actions, puis même notre langue aussi. Seigneur, on vient devant toi pour te louer. Parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Tu es notre Dieu. C'est toi qui règnes sur tout l'univers. C'est toi qui règnes sur nos vies. Et c'est ta parole, Seigneur, ce matin que l'on ouvre. Parce que c'est toi qu'on veut entendre. Viens nous parler à chacun d'entre nous. Viens toucher nos cœurs. Qu'à travers ton esprit, que chacun d'entre nous, on soit concerné par ce que tu as à nous dire. Et qu'on puisse mettre en pratique ta parole. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, qu'on te prie ces choses. Amen. Vous savez, avant qu'on regarde dans Jacques, on va regarder deux versets. J'aimerais qu'on prenne le temps de regarder un exemple. Regardez derrière l'étiquette. Première raison pourquoi on devrait regarder derrière l'étiquette, c'est parce que c'est d'imiter ce que Jésus lui-même fait. Jésus lui-même prend le temps de regarder derrière l'étiquette. Que bien des gens on pose, hein? Des fois on en donne une étiquette, puis des fois il y en a d'autres qui s'accumulent, mais Jésus regarde derrière l'étiquette. Et quand on fait comme lui, bien, on est en train de l'imiter. Et ça, c'est une bonne raison que de pouvoir regarder derrière l'étiquette. Vous avez 1 Samuel 16, 7, l'Éternel, on le connaît bien, hein? Il ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde derrière l'étiquette. Éphésiens, oh, c'est moi qu'il faut que je change ça. Éphésiens 4 nous dit « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés et marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés, qui s'est livré lui-même. Jésus, c'est qui le suivait? C'est qui s'attachait à Jésus? Si Jésus est assis là, puis qu'un inconnu rentre, un invité, est-ce qu'il serait mal à l'aise d'aller s'asseoir à côté de Jésus? Quand on regarde les évangiles, les gens, est-ce qu'ils avaient peur de s'approcher de Jésus? On est beaucoup plus, on n'est pas Jésus, mais des fois, on est beaucoup plus intimidant par notre façon d'agir, notre façon de penser envers notre prochain, que ce que Jésus l'était lui-même. Regardez dans Luc 7, on va tourner tantôt dans Jacques, je vais vous faire tourner quelques textes, mais je vais juste énumérer quelques exemples. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfum et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Est-ce qu'il la connaissait, Jésus? Il savait que c'était une pécheresse. Il savait que c'était une femme qui avait un lourd bagage sur ses épaules, une femme pécheresse. Et cette femme-là, est-ce qu'elle a eu accès aux pieds de Jésus? Absolument. Elle s'est approchée de Jésus, puis Jésus ne l'a pas tassé, ne l'a pas bousculé, comme ce que probablement bien des pharisiens auraient fait, en disant ça, c'est une pécheresse. Jésus s'est laissé approcher. Jésus s'est laissé laver les pieds par cette femme-là. Il la connaissait. Là, deux écoles du dimanche, on voyait un lépreux. Jésus était dans une ville et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Un lépreux qui était exclu de la communauté, qui était éloigné de tous les gens, vient s'approcher auprès de Jésus. Probablement, certainement parce qu'il savait que Jésus pouvait le guérir, mais il s'est approché de lui. Et les lépreux, habituellement, on ne les approche pas. On les laisse loin. On s'en occupe pas. On les laisse mourir là où ils sont. Puis, on les touche surtout pas. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris sa main, puis il l'a touché, puis il l'a guéri. Ça, c'est l'attitude de Jésus envers un homme qui était malade par la lèpre, mais de là découle aussi toute l'attitude de Jésus. Regardez un autre texte. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Est-ce que ces gens-là avaient accès auprès de Jésus? Les gens de mauvaise vie, les publicains, pouvaient s'approcher de Jésus, qui était même appelé souvent rabbi, rabbin. Hein? On ne s'approche pas de ces hommes religieux qui dégagent une forte prestance et qui font peur un peu. Puis Jésus, les gens l'approchent. Mais pourquoi? Pourquoi les gens l'approchent? Pourquoi les gens vont auprès de lui? Il allait auprès de lui, il voulait l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie, puis il mange avec eux. » Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela, et ils se moquaient de lui. Ils se moquaient de Jésus. Puis Jésus leur dit, « Vous, vous cherchez à paraître juste devant les hommes. » Mais Dieu connaît vos cœurs, car ce qui est élevé parmi les hommes est une abomination devant Dieu. Dieu, Jésus, regardait derrière les étiquettes. Oui, il y avait des gens de mauvaise vie. Oui, il y avait des publicains, mais ces gens-là sentaient un accueil auprès de Jésus. Il y avait la femme prise en flagrant délit d'adultère aussi. Jésus lui demandait, « Ils sont où les gens qui te condamnaient? Les gens qui t'accusent, personne ne t'a-t-il condamné? » Puis elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus avait une attitude d'accueillir les gens, d'accueillir le pécheur. Est-ce que ça veut dire qu'il se fermait les yeux sur le péché? Absolument pas. Mais il accueillait les gens. Au-delà des étiquettes qu'on pouvait placer sur chacun d'entre eux, il les accueillait. Et les gens qui s'approchaient de lui avaient ce sentiment-là de ne pas être rejetés, mais d'être accueillis. Certainement parce que Jésus ne plaçait pas des étiquettes sur les gens. J'aimerais juste vous faire une courte citation d'un livre que j'aime bien. Puis je vous le recommande. Ce Jésus que je ne connaissais pas, Philippe Yancey. Les évangiles montrent que Jésus établissait rapidement un lien d'intimité avec les personnes qu'il rencontrait. S'entretenant avec une femme devant un puits, un chef religieux dans un jardin ou un pêcheur près d'un lac, il allait directement au cœur du sujet et quelques bribes de conversation suffisaient à ces gens pour confier à Jésus leurs secrets les plus intimes. Ses contemporains avaient tendance à tenir les rabbis et les saints hommes à une distance respectueuse. Mais Jésus éveillait une autre réaction, une faim si profonde que les gens s'amassaient autour de lui dans le seul but de toucher ses vêtements. Est-ce qu'on est des disciples de Christ? Regardez derrière l'étiquette, c'est d'imiter Jésus. Si on est des disciples de Christ, on devrait rechercher cette attitude d'accueil. Ne pas juger, ne pas calomnier, mépriser. Jésus les accueillait. Si Jésus est assis là aujourd'hui, est-ce qu'on aurait cet accueil-là? Évidemment. La première bonne raison pour regarder derrière l'étiquette, c'est que Jésus le faisait et on veut être ses imitateurs. Il regardait au cœur et il accueillait ces gens-là. Maintenant, regardez dans Jacques. On va regarder les versets 11 et 12. Commençons avec le verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. J'ai entendu quelques pages tourner, je vais le répéter. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Qu'est-ce que Dieu s'attend de nous? Qu'on soit des juges de la loi ou des observateurs de la loi? Regardez derrière l'étiquette, c'est la loi de Jésus. Pourquoi est-ce que je vais regarder derrière l'étiquette? C'est parce que c'est la loi de Christ, c'est la loi de Jésus. Reculez de quelques chapitres dans Jacques. On va lire les versets dans Jacques 2, les versets 2 à 4. De quelle loi s'agit-il? C'est évidemment pas la loi de Moïse. Cette loi, on va se mettre à suivre rigoureusement. Mais regardez comment est-ce que Jacques la décrit. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assis-toi ici, et à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi là debout, ou bien assis-toi au-dessous de mon marchepied, » ne faites-vous pas en vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Regardez versets 8 et 9. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, et c'est quoi cette loi-là? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Ça, c'est la définition que Jacques en donne de la loi. La loi royale, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si quelqu'un entre dans notre assemblée puis on lui pose une étiquette parce qu'il y a des beaux habits, on agit mal. Puis on lui dit, hey, assieds-toi à cette place d'honneur-là. Comparativement à l'autre qui arrive puis qui lui est peut-être pauvre ou mal vêtu ou peu importe, il y a un passé plus lourd. Puis on lui dit, regarde, il reste une place sur le banc de piano. Tiens-toi là. Puis tiens-toi tranquille. C'est du favoritisme. Et puis Dieu nous dit que c'est un péché. La loi de Jésus nous enseigne à aimer notre prochain, sans distinction, sans étiquette. C'est ce que Dieu s'attend de nous. Jacques, il parle de la loi royale. Paul, il appelle ça la loi de Christ. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Pierre, lui, dans, je vais vous lire, vous pouvez tourner si vous voulez, là, mais dans 1 Pierre 1:22, Pierre, il dit, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, l'obéissance de la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Pourquoi est-ce qu'on s'aime les uns les autres ardemment de tout notre cœur? Par obéissance à la vérité. Jean lui dit, tournez encore un petit peu plus loin si vous me suivez, là, dans 2 Jean, versets 5 et 6. Chapitre 1, versets 5 et 6. Et maintenant, ce que je demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Jacques, il parle de la loi royale. Paul, il parle de la loi de Christ. Pierre, il parle de l'obéissance à la vérité. Jean, il parle d'un commandement qui concerne l'amour. En tant que frère et sœur, en tant que croyant, Dieu s'attend de nous que nous appliquions ce commandement que d'aimer notre prochain. Que d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Jésus nous a donné un exemple absolu, puis a mis le comble de son amour pour nous en lavant les pieds de ses disciples, puis il nous demandait de reproduire le même exemple d'amour. Jésus nous a dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie. Jésus nous a enseigné que les deux plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu, d'aimer son prochain. La loi de Christ se résume à un mot, c'est quoi? L'amour. Quand que mon frère ou ma sœur arrive ici, ou mon prochain, même quelqu'un qui n'est pas nécessairement un fidèle, qui ne croit pas en Dieu, puis que je lui pose une étiquette, est-ce que je suis en train d'observer la loi de Christ, la loi royale? Ou est-ce que je suis transgresseur de la loi? Dieu vient de me dire que je suis un transgresseur quand j'agis de la sorte, que je pose des étiquettes. Mais de regarder derrière l'étiquette que d'autres ont mis avant moi, de regarder ou de retenir les étiquettes que j'aurais envie de mettre, bien c'est finalement l'attitude que la loi de Christ, la loi de Jésus m'enseigne. Vous n'êtes pas trop loin, là. Je ne sais pas si vous êtes encore dans Jacques 2. Allez dans Jacques 4. On va relire le verset 7 qu'on a déjà vu il y a quelques semaines. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. On voyait que Dieu, dans le fond, ce qui s'attend de nous, c'est qu'on s'approche de lui, puis qu'on résiste au diable. Savez-vous c'est quoi? Vous allez peut-être me dire non, mais le mot grec pour calomnier? Merci, Ghislain. Diabolos. Diabolos, ça vous fait penser à quoi? C'est drôle, hein? Diabolos, qui est traduit par calomnier. Mais c'est pas l'œuvre du diable, ça? Je résistais au diable! Mais je calomnie, je juge, je parle mal de mon frère ou de ma sœur ou de mon prochain. Est-ce que je suis en train de résister au diable ou je suis en train de faire son œuvre? Je suis en train de faire son œuvre. Calomnier. Et là, Jacques emploie ici de parler en mal d'un frère ou d'un autre, qui est un autre mot, mais l'idée demeure la même. En critiquant, en calomniant, en méprisant, en jugeant, en se plaignant contre les autres, contre mon prochain, mais je manifeste l'attitude du diable. Et Jacques revient constamment à une question qui est sous-entendue. La foi d'un fidèle, est-ce qu'elle est authentique? Est-ce que ta foi, elle est authentique? Tu dis croire en Dieu, tu dis appartenir à Christ, mais quelles sont tes œuvres? De quelle façon tu te comportes avec ton prochain, avec ton frère ou ta sœur? Jacques explique que parler en mal ou juger son frère, c'est la même chose que de parler contre la loi. Regardez verset 11. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, deux choses très semblables, parle mal de la loi et juge la loi. Je parle mal de la loi de Christ. Dieu me dit, aime ton prochain, mais moi, je suis en train de dire, c'est vraiment nécessaire? Regarde, là, je ne peux pas parler selon la loi que Jésus m'a enseignée d'aimer mon prochain. Regarde qu'est-ce qu'il me fait. Regarde comment est-ce qu'il agit. Regarde comment est-ce qu'il pense. Je parle mal de la loi, puis je juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu es juge. C'était une fois, dans le Grand Nord, un bûcheron qui coupait son bois pour l'hiver. Puis après deux journées de coupe et puis plusieurs cordes de bois transportées, il vient se demander si sa provision pour les grands froids est suffisante. Parce que les hivers là-bas sont très rigoureux. Hein? Fait que là, il va voir un vieux chef indien, un peu déplumé, pour savoir si l'hiver sera rigoureux. Il pose la question au chef et le chef lui répond, « Hug, l'hiver sera rude. » Fait que là, notre bûcheron se dit, peut-être pas assez de cordées de bois. M'a retourné couper du bois. Alors le bûcheron, il retourne couper du bois encore, puis au bout de quelques jours de dur labeur, ben il retourne voir le vieux chef indien, puis il lui repose la même question. Et là, le chef indien lui répond, « Hug, l'hiver sera rude, très rude. » Allez, dit, l'hiver très rude. On va retourner couper du bois. D'abord, on coupait du bois pendant une quinzaine de jours. Fait qu'il coupe du bois, puis il monte ses cordes de bois, puis il coupe, puis il retourne voir son chef indien, poser la même question. Puis là, le chef indien, il dit, « Hug, l'hiver sera rude, très, très, très rude. » Il se dit, « Ben voyons donc, comment est-ce qu'il fait pour savoir ça, lui? » Là, le bûcheron, il demande au chef indien, « Ben, comment tu fais pour savoir ça? » Là, le chef indien répond, « Quand un blanc coupe beaucoup de bois, c'est que l'hiver sera rude. » L'un et l'autre avaient peut-être entretenu des préjugés, hein? L'un contre l'autre. Un, il se fiait à l'homme blanc qui coupait son bois pour voir que c'était l'hiver très rude, et puis il se trompait. Puis l'homme blanc, bien, envers l'Indien, en pensant que lui, il pouvait décerner si l'hiver serait rude. Ces préjugés-là, mais là, c'est plus une blague parce que c'est pas quelque chose qui nous touche dans le fond puis qui peut nous blesser gravement. Mais dans le fond, quand on a ces préjugés-là les uns envers les autres, c'est des choses qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous toucher, nous décourager, nous empêcher de revenir à l'Église et nous faire beaucoup de mal. Est-ce que j'imite Jésus? Je dois regarder derrière l'étiquette. Quand je regarde derrière l'étiquette, c'est imiter Christ. Mais quand je regarde derrière l'étiquette, c'est faire la loi de Christ aussi que d'aimer mon prochain. La loi de Christ a permis qu'il n'y ait plus de race, qu'il n'y ait plus de sexe, qu'il n'y ait plus de statuts sociaux en Jésus-Christ. Oui, on reste des individus, mais les Écritures nous enseignent qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre, parce que Jésus nous a réunis. Il n'y a plus ces distinctions-là entre les sexes, entre les races, entre parce qu'on trouve une identité en Jésus-Christ. Et au-delà du corps de Christ, l'attitude du croyant envers même l'incroyant demeure la même. Dieu s'attend qu'on ait une attitude d'accueil, comme lui avait. Est-ce que je suis avec Jésus ou je suis contre lui? Si je pose mes étiquettes continuellement, les Écritures me disent que je parle mal de la loi, je juge la loi. Est-ce que je suis avec Christ ou je suis contre lui? Est-ce que dans le fond, je suis en train de dire par mes actions que j'ai mieux à offrir que la loi de Christ? J'ai mieux à offrir que ce que tu dis, Jésus. Est-ce que je suis mieux placé que Dieu, que Jésus pour légiférer? Est-ce que je suis au-dessus de la loi? Dernière raison pour laquelle on doit s'exercer, qu'on doit s'habituer, qu'on doit regarder derrière l'étiquette, c'est parce que c'est laisser Dieu faire sa job. Regardez le verset 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Dieu s'en occupe des jugements. Dieu s'occupe des étiquettes. Il y a un seul législateur et juge. C'est qui? C'est pas moi. C'est pas vous autres. C'est celui qui a le pouvoir, que Jacques il nous dit, de sauver et de perdre. Celui qui a le pouvoir d'acquitter et de punir. Le juge. Celui qui détermine les lois et celui qui juge si on s'y est conformé. Puis ça, c'est juste Dieu. Celui qui juge, c'est celui qui a le pouvoir. Lui seul a le pouvoir pour acquitter, détruire. C'est lui le législateur et le juge, et il doit également être celui qui a le pouvoir sur la vie et sur la mort. Et ça, c'est seulement Dieu. Regardez Romains, je pense que je l'ai mis ici. Romains 14, 10 à 13. « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu. » Paul nous parle aussi dans 2 Corinthiens 5 du tribunal de Christ. « Car il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur. Tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera de gloire à Dieu. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres. » Ce que Dieu vient nous enseigner à travers Jacques, à travers Paul ici, c'est qu'il y a seulement Dieu à qui on va rendre des comptes. Où chacun d'entre nous, on a à évaluer nos propres actions, nos propres vies devant lui et à s'évaluer. Je vais juste vous citer le texte, Matthieu 7, 1 à 5, on ne le lira pas. Mais juste avant, j'allais dire, Jacques, il termine avec une question, son verset 12, en disant, « Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? » Je vois beaucoup plus le visage de ma femme que je vois mon visage. Vous voyez beaucoup plus mon visage que je vois mon propre visage. Vous êtes d'accord? Hein? C'est difficile de se regarder quand on n'a pas de miroir. Mais c'est bien plus facile de regarder notre prochain puis de voir ses problèmes. Puis de voir comment est-ce qu'il agit mal. On est bien plus à l'affût de qu'est-ce qui cloche dans sa vie. Parce qu'on le voit. Jacques, qui nous parlait hein, dans son épître, d'un miroir. C'est quoi le miroir? La parole de Dieu. Que nous aussi, on a à s'examiner devant ce miroir-là pour regarder une fois de temps en temps notre visage, pour qu'on puisse regarder nous-mêmes c'est quoi qui cloche dans nos vies. Cette tendance que l'on a à juger plus facilement les autres, peut-être que c'est parce qu'on devrait prendre du temps pour nous-mêmes, pour s'examiner. Ça fait pas penser à un enseignement que Jésus a donné. Tu vois la paille dans l'œil de ton frère, mais tu n'es même pas en mesure de constater ta poutre que tu as. C'est ce que Dieu me dit. Prends le temps de regarder ta vie. Prends le temps de regarder la poutre que tu as dans ton œil. Pourtant, elle est évidente, elle devrait être évidente. Mais prends le temps et essaye de voir comment ça peut se régler, ça. Enlève la poutre dans ton œil. Je ne sais pas si vous avez la même image que moi, mais ça fait un peu bizarre d'avoir une poutre dans l'œil, hein? Mais j'essaie d'imaginer d'avoir une poutre dans l'œil, et fort probablement que dans des aspects de ma vie, j'en ai, là. Mais s'enlever, j'ai déjà une petite poussière dans l'œil, puis ça fait extrêmement mal. J'essaie d'imaginer la poutre, et que là, on essaie d'enlever. Imagine qu'on va y aller doucement. Hein? On va y aller tranquillement. On va faire attention pour pas créer plus de dommages que ce que la poutre a créé, puis on va essayer de l'enlever doucement. Mais une fois que j'ai réussi à enlever cette poutre-là, là, ça se peut-tu que j'aie la sensibilité pour aider mon prochain à enlever la paille de son œil? C'est ça que Jésus m'enseigne. Enlève premièrement la poutre que tu as dans ton œil, puis après, tu seras en mesure de voir comment enlever la paille dans l'œil de ton prochain. Ce que Jésus nous enseigne, c'est qu'on doit regarder derrière l'étiquette. Regarder derrière l'étiquette, c'est laisser Dieu faire sa job. Parce que c'est lui qui est juge, c'est lui qui est législateur. C'est lui qui s'occupe de chacune de nos vies. C'est celui qui a le pouvoir sur nos vies, même sur la mort aussi. Est-ce que je cherche à comprendre plutôt que condamner? Est-ce que je change de mesure? Deux poids, deux mesures. C'est ça que Jésus parlait, hein, des fois. J'ai des critères beaucoup plus élevés pour mon prochain, mais quand vient le temps d'appliquer ça à ma vie, là, on va baisser un petit peu le standard. C'est ça, deux poids, deux mesures. C'est ça de juger son frère. Est-ce que je prends le temps de me regarder dans le miroir que Jacques me parle avant de pointer les autres? Jacques, il disait dans Jacques 2,13, « Le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. » Tu fais pas miséricorde, puis tu es dur constamment avec ton frère, mais le jugement que tu vas recevoir, il va être dur aussi. Vous serez jugé à la mesure que vous aurez jugé. Vous serez mesuré à la mesure que vous aurez mesuré. C'est ça que Jésus enseignait. Résolve nos difficultés avant d'être spécialiste pour les autres. Dieu nous demande de regarder derrière l'étiquette. J'aimerais ajouter une parenthèse, parce que les Écritures nous parlent des deux. On a aussi, en certaines occasions, le devoir de juger. Il faut que chaque chose soit replacée aussi dans son contexte. Jésus vient de parler, je vous l'ai cité, là, vous pourriez le lire, là, Matthieu 7, 1 à 5. Les derniers versets disaient, « Enlève la poutre de ton œil et tu verras ensuite comment aider ton prochain pour enlever sa paille. » Je peux intervenir aussi. Dieu, certainement, qui s'intéresse à chacune de nos vies pour s'impliquer dans la vie de l'autre pour aider. Il y a d'autres occasions où Dieu nous demande d'intervenir, où Dieu nous demande de juger, mais il faut les placer dans son contexte. Mais il y a un temps pour chaque chose, et ce matin, ce que Dieu nous enseigne à travers Jacques, c'est qu'on ne doit pas se juger les uns les autres, juger les motifs du cœur, juger le fait que, il me semble que lui, il ne s'implique pas. Il me semble que lui, il agit. Regarde comment est-ce qu'il agit avec sa femme. Regarde comment est-ce qu'il se comporte avec ses enfants. Regarde comment est-ce qu'il gère son ministère. Dieu nous demande de l'imiter, puis d'avoir une attitude d'accueil. Dieu nous demande de regarder derrière l'étiquette parce que c'est la loi de Christ. Dieu nous demande de regarder derrière l'étiquette parce que c'est sa job de s'occuper des étiquettes, pas de la mienne. En certaines occasions, on aura l'occasion de voir, parce que Jacques va en parler au chapitre 5. Si un frère s'est éloigné de la voie à laquelle il devait suivre, on l'abordera cette question-là quand on sera rendu là. Il y a certaines occasions où, effectivement, Dieu nous demande d'intervenir. Mais présentement, Dieu nous demande de s'investir avec amour dans la vie de nos prochains, de notre prochain. On devrait prendre le temps de poser des questions avant de poser des jugements. Ce que Jésus faisait, c'est qu'il dénonçait le péché, mais il aidait le pécheur. C'est ça qu'on doit faire. On ne se ferme pas les yeux sur le péché. Le péché doit être appelé péché. Une action qui est mal ou qui est proscrite doit le demeurer. Mais en tant qu'enfant de Dieu et de disciple de Christ, on peut aider le pécheur, par exemple, à aller plus loin dans sa vie avec Dieu. Travailler continuellement sur soi avant les autres. La critique, la condamnation, le jugement, la calomnie, ça détruit. Puis c'est l'œuvre du diable. Encourager, exhorter, dire la vérité dans l'amour, avoir des paroles de grâce assaisonnées de sel peut-être aussi, ça fortifie, ça construit, puis ça, c'est l'œuvre de Christ. J'aimerais qu'on termine par la prière. Seigneur, on vient devant toi pour te louer parce que tu viens éclairer nos pensées en ce qui concerne cette attitude que l'on peut avoir les uns envers les autres. Tu nous enseignes à travers ta parole que tu t'attends de nous qu'on regarde les personnes. Que l'on ait tes yeux que toi tu as sur les gens. Tu accueillais ces gens de mauvaise vie, tu accueillais les pécheurs, ils étaient près de toi et tu les aimais. Dieu, on veut t'imiter. On veut te ressembler. On veut que si quelqu'un entre ici, il se sente accueilli à côté du banc vide auprès de moi. On veut t'imiter, puis on veut respecter aussi ce commandement que tu nous as demandé de s'aimer les uns les autres. Sans faire de favoritisme, sans poser d'étiquette, de calomnie ou de jugement. Dieu, c'est ton travail que de porter les jugements. Et tu le fais bien mieux que nous autres. On est nous-mêmes pris avec nos propres péchés, pris avec nos propres poutres. Mais merci parce que c'est toi le juge, c'est toi le législateur, c'est toi qui détiens ce pouvoir-là. Et sachant que c'est à toi qu'on aura à rendre compte, on veut aussi soumettre nos vies à ta lumière. Que tu viennes nous éclairer et que tu viennes nous montrer, Seigneur, une attitude que tu voudrais que l'on corrige dans nos vies. Que ce soit de la calomnie ou du jugement. Seigneur, on veut te suivre, on veut être des disciples intègres. et transforme-nous. Dans le nom de ton Fils Jésus, qu'on te prie ces choses. Amen.